la foi chrétienne pour les nuls. Avec Marcos, journaliste sans peur et sans talent, et Samos, savant surdiplômé et surestimé.
Tiens, Paulus, vous ici ?
Docteur Samos, je viens vous voir parce que je suis extrêmement choqué.
Oh là, qu'ai-je donc encore dit ?
Vous, je ne sais pas, je n'écoute pas votre émission. Mais par contre, j'ai lu un passage dans l'évangile qui est inacceptable.
Ah bon, et lequel ?
Il s'agit de l'histoire d'un homme qui vient voir Jésus pour lui demander ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui parle des 10 commandements, ne pas tuer, ne pas voler, honorer son père et sa mère, tout ça, tout ça. Eh bien, l'homme lui dit qu'il a toujours observé tous les commandements depuis sa jeunesse. Et Jésus lui dit ensuite, il ne te manque plus qu'une chose, va, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres.
Oui, alors ? Qu'est-ce qui vous choque ?
Bah, vous vous rendez compte de l'énormité ? Ça voudrait dire que tous ceux qui voudraient devenir chrétiens devraient tout vendre. Comment fait-on pour vivre ensuite ?
Vous savez, Paulus, vous auriez dû aussi lire la suite du texte. L'homme riche s'en va tout triste, justement parce qu'il est très riche et qu'il ne se sent pas capable de se séparer de ses biens. Alors, Jésus dit à ses disciples qu'il serait plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne vous choque pas ?
Ah si, tout à fait, parce que ça veut dire que tous les riches sont exclus. Et moi je dis, on peut très bien être riche et quelqu'un de bien. Qu'est-ce que c'est que cette rhétorique marxiste ? Alors, tous les riches vont en enfer, c'est ça ?
Jésus ne dit pas cela, mais je crois qu'il nous faut étudier d'autres passages pour mieux comprendre ce que Jésus veut nous dire sur notre rapport à l'argent. Prenez par exemple la parabole de l'intendant malhonnête. Lorsque cet intendant qui vole son maître est menacé de perdre son emploi, il se dit en lui-même « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance ? Bêcher ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'en ai honte. » Que vous inspire cette réflexion ?
Ma foi, c'est un paresseux, c'est tout. S'il était assez malin pour tromper son patron, il n'a qu'à se débrouiller pour créer sa propre entreprise. Et là, il pourra la gérer comme il voudra.
Ça me paraît logique, en effet. Voyez-vous, Paulus, par cette parabole, Jésus nous montre quel rapport il nous faut avoir avec l'argent. Refuser la malhonnêteté qui pourrait nous valoir un gain facile. Le travail est donc valorisé dans l'évangile. De même, l'apôtre Paul, plus tard, veillera à toujours conserver une activité manuelle afin de satisfaire lui-même à ses besoins et à ne pas dépendre du travail des autres.
Ouais, je suis pas vraiment convaincu. Ne lit-on pas ailleurs cette phrase de Jésus « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». N'est-ce pas le signe que Jésus méprise l'argent ?
Pas du tout. Lisez bien. Ce que Jésus dit, c'est de ne pas servir l'argent, c'est-à-dire ne pas vivre pour l'argent. Le chrétien doit ordonner toute sa vie au service de Dieu. L'argent, il peut en avoir, à condition que l'argent qu'il possède et qu'il gagne soit mis aussi au profit de ce but, servir Dieu. Il ne faut pas servir l'argent, mais il faut s'en servir, pour Dieu. D'ailleurs, prenez une autre parabole de Jésus, celle des talents. Le roi de cette parabole reproche à son serviteur à qui il a confié de l'argent de ne pas l'avoir fait prospérer. Il l'a enterré et s'est contenté de redonner la pièce qu'on lui avait donnée. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Chaque don que le Seigneur nous donne doit être développé et utilisé pour sa gloire.
Êtes-vous en train d'insinuer qu'il faudrait que tout l'argent qu'on gagne, on le donne à l'Église ?
Attention, Paulus, l'Église n'est pas Dieu. L'Église est une institution créée par Dieu, mais composée d'hommes. Donner de l'argent à l'Église, c'est aider l'Église à accomplir sa mission, qui est d'annoncer l'Évangile à tous les hommes. Dans la Bible, une loi de Moïse demande au peuple de donner la dîme au temple, c'est-à-dire de reverser 10% de ce que l'on gagne.
10% ? Mamma mia ! Mais avec tout ce que me prennent déjà les impôts, il ne va plus rien me rester.
C'est à vous d'évaluer ce que vous pouvez donner. À vous de voir si vous souhaitez donner de votre superflu ou de votre nécessaire. Jésus dit qu'à celui qui sait se séparer de ses biens, on donnera au centuple.
Oui, mais qui s'occupe de donner au centuple ?
Dieu, bien sûr.
C'est bien ce que je craignais.
La question n'est pas de donner telle ou telle somme. Ce serait facile de se donner bonne conscience en disant « Voilà, je vais donner telle somme et puis je serai sûr de m'attirer les bonnes grâces de Dieu. » Non, on ne peut pas acheter Dieu et sa grâce. L'amour de Dieu est toujours totalement gratuit. Ainsi, Jésus reproche aux pharisiens la chose suivante. « Vous payez la dîme, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Autrement dit, chacun doit réfléchir dans son cœur et donner ce qui lui semble juste.
D'accord, d'accord. Mais cela ne résout pas notre problème de tout à l'heure. Les riches restent exclus du royaume de Dieu, d'après Jésus.
Pas seulement les riches, tous les hommes.
Tous les hommes. Je ne comprends plus rien.
Les disciples s'exclament. Mais qui peut être sauvé alors ? Jésus répond. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. En d'autres mots, il n'existe pas de moyen automatique pour être sauvé, et l'argent ne pourra pas vous y aider.
Oui, enfin, l'argent, ça aide quand même, parce que quand on n'en a pas, la vie est quand même bien difficile.
La vie, oui, mais quelle vie ? Pour le chrétien, la vie, c'est d'abord, et avant tout, être en relation avec Dieu, dans tous les aspects de sa vie. Ainsi, Jésus nous dit, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père des cieux sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Comprenez-vous, cher Paulus, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu ». Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour obtenir ce dont on a besoin, mais que notre vie ne doit pas être d'abord orientée à la recherche des biens matériels.
Oui, mais il en faut pourtant.
Oui, il en faut. Mais pour le chrétien, le plus important reste d'orienter sa vie vers Dieu.
Orienter sa vie vers Dieu, c'est bien joli. Mais si on n'a plus rien à bouffer, c'est plus facile à dire qu'à faire.
C'est justement à cette conversion que nous appelle Jésus. Apprendre à nous couper de tout ce qui n'est pas essentiel pour entrer sur un chemin d'humanisation. C'est un chemin de foi qui nous apprend à nous détacher progressivement de tout ce qu'il faudra se détacher le jour de notre mort.
Comment ça ?
Le jour de notre mort, même le plus riche de tous les hommes de la terre, n'emportera rien avec lui, pas même ses vêtements, qui, comme son propre corps, tombera en poussière. Alors, à la mort, vous voilà privé de tout ce qui vous paraît essentiel. Boire, manger, posséder des biens de toutes sortes.
Mais qu'emporterons-nous dans l'au-delà alors ?
Notre intelligence et notre amour. Et par-dessus tout, notre capacité à pardonner et à accueillir le pardon de Dieu.
Ainsi, vivre, c'est un peu apprendre à mourir ?
Oui. Et pour cette tâche bien difficile, nous ne sommes pas seuls. Jésus dit à l'homme riche de vendre ses biens et de les donner aux pauvres. Et il ajoute ensuite « Viens et suis-moi ». Jésus nous précède donc sur le chemin. Et si nous pouvons le suivre sans inquiétude, c'est parce que nous croyons qu'il est le seul à avoir traversé la mort et à l'avoir vaincu.
Merci à Paulus et Samos pour cet échange qui nous donne quelques repères sur notre rapport à l'argent. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez lire le chapitre 10 de l'évangile de Marc, le chapitre 16 de l'évangile de Luc, le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu et le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. La prochaine émission parlera du credo.